Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, vous écoutez SBS French, votre programme en français. Il est 13h à Melbourne, 5h à Paris, 3h en temps universel. Je suis Marianne Murat, très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Et au programme aujourd'hui, on va parler économie, comme tous les jeudis, avec notamment les conséquences de la nomination du gouvernement australien. Puis, on vous propose de découvrir un long reportage de Radio France Internationale sur un sujet des plus communs, mais encore trop tabou, la fausse couche, ou plutôt devrait-on dire l'interruption spontanée de grossesse, car oui, il faut encore le répéter, une fausse couche n'a rien de faux. C'est une vraie détresse, une vraie douleur, un vrai deuil. C'est un reportage poignant que l'on vous propose aujourd'hui, essentiel, et surtout un reportage très juste. C'est en fin d'émission. On commence maintenant par les dernières actualités suivies du Journal des Sports. À la une de l'actualité de ce jeudi 26 mai, les États-Unis en deuil après une fusillade dans une école primaire. 19 enfants et 2 enseignants ont été tués par un jeune Américain de 18 ans. Joe Biden est attendu au Texas dans les prochains jours. Le prix de l'électricité en hausse en Australie à partir du mois de juillet, plus 100 dollars minimum par an. La faute au contexte géopolitique, mais pas que, vous l'entendrez. 25 ans après la publication du rapport sur les générations volées, l'Australie occidentale exhorte l'État à indemniser les familles aborigènes victimes de ces séparations forcées. Avec le Queensland, ils sont les deux seuls États à ne pas encore avoir mis en place de programme de réparation. Et enfin, du sport et les derniers résultats de Roland-Garros. Le Français Corentin Moutet sorti du tournoi par Rafael Nadal en 3-7. On en parle dans le Journal des Sports présenté aujourd'hui par Jean-Noël Ducasse. Les drapeaux en berne, un pays en deuil et toute une communauté internationale sous le choc. Les États-Unis ont à nouveau été le théâtre d'un massacre de masse. 21 personnes ont été assassinées, 2 enseignants et 19 enfants, 19 jeunes enfants de moins de 10 ans. Le massacre s'est déroulé dans une école primaire de la ville d'Uvalde, dans le sud du Texas. Témoignages et réactions à Houston, recueillis par Thomas Arms pour Radio France Internationale.
Plus de 4 heures de route de Uvalde, les écoles de Houston sont en état de risque maximum. Les parents ont peur, comme Shelby Herman qui vient de déposer son garçon de 4 ans.
J'ai failli ne pas emmener mon enfant ce matin, par peur. Je suis fatiguée de voir ces gros titres. À quel moment on décide que c'est trop ?
À la question du nombre d'armes en circulation et aux moyens de faire face, la réponse est texane et moins claire. Greta Wilson est psychologue en milieu scolaire.
Ce ne sont pas les armes qui tuent les gens, ce sont les gens qui tuent les gens. Je ne pense pas que les armes soient en jeu. En fait, je ne suis pas surprise. Il y a beaucoup de problèmes avec les élèves dans les écoles aujourd'hui.
Devant l'école élémentaire Haley de Houston, 2 voitures de police. Le shérif fait sa ronde.
Ils sont inquiets. Avec tout ce qui s'est passé, on est en état d'alerte.
Et en tant que shérif, que pensez-vous du contrôle des armes ?
Eh bien, on a notre 2e amendement, vous savez.
C'est en vertu de ce 2nd amendement de la Constitution américaine que depuis 2021, il n'y a plus de port d'armes au Texas et qu'un jeune de 18 ans peut acheter un fusil d'assaut AR-15 sans aucun problème.
Ce jeune de 18 ans, justement, le tueur, on sait qu'il s'appelle Salvador Ramos. Il étudiait lui-même au lycée d'Uvalde. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait d'abord tiré sur sa grand-mère avant de prendre la voiture et de se rendre à l'école élémentaire. Salvador Ramos, qui est lui aussi décédé, il a été abattu par la police. Les premières analyses de ses comptes sur les réseaux sociaux montrent un jeune homme fasciné par les armes à feu. Mais le gouvernement du Texas, Greg Abbott, s'en défend. Il était impossible, selon lui, de prévenir le massacre. On l'écoute.
As of this time, the only information that was known in advance was posted by the gunman on Facebook approximately 30 minutes before reaching the school. The first post was to the point of, he said, I'm going to shoot my grandmother. The second post was,
I shot my grandmother. The third post, maybe less than 15 minutes before arriving at the school, was I'm going to shoot an elementary school.
Et on l'a entendu dans le reportage de Thomas Harms, hein, cette fusillade relance bien évidemment une fois encore le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes? Cette question est signée Joe Biden quelques heures après la tragédie. Analyse de Vincent Souriau.
Les chiffres sont effarants. Prenons les données publiées par le FBI il y a deux jours. Dans son dernier rapport, les services de police américains ont comptabilisé 61 tueries de ce type l'an dernier aux États-Unis, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2020 et de quasiment 100% par rapport à 2017, avec des attaques de plus en plus élaborées, car de nos jours, d'après le FBI, les tireurs ont tendance à ouvrir le feu à plusieurs endroits différents ou sur plusieurs jours consécutifs. Ensuite, il y a le nombre d'armes à feu en circulation. Il y en aurait 400 millions aux États-Unis aujourd'hui pour 331 millions d'habitants, c'est-à-dire en moyenne 120 pistolets ou fusils pour 100 citoyens américains. Quant aux enfants, ils sont de plus en plus souvent visés, plus de 1500 morts chez les moins de 18 ans l'an dernier.
Joe Biden, le président américain, se dit fatigué. Jill et moi irons au Texas dans les prochains jours pour rencontrer les familles et leur faire savoir que nous avons une idée, juste une idée, de leur douleur. Fin de citation. Autre actualité à l'international, le dernier rebondissement dans l'enquête sur le Partygate qui met en cause Downing Street. Manque de leadership, manque de jugement, le rapport publié ce mercredi fustige Boris Johnson. On le rappelle, le Premier ministre britannique est accusé d'avoir assisté à des fêtes à son bureau en pleine période de confinement strict lors de la pandémie de Covid-19. Acculé par les nombreux appels à la démission, Boris Johnson s'est dans la foulée exprimé au Parlement hier, Sidonie Gaucher.
Some of these gatherings.
Le rapport de Sougré indique que certaines fêtes ont duré plus longtemps que nécessaire et qu'elles ont enfreint les règles.
Le Premier ministre ne semble pas à une contradiction près lorsqu'il se dit humilié par les conclusions du rapport sur les fêtes durant le confinement et à la fois consterné de ce qu'il s'est passé.
J'ignorais tout de ces fêtes puisque je n'y étais pas et j'ai été comme vous aussi surpris et déçu. Et je vais vous dire franchement, j'ai même été consterné par certains comportements, particulièrement à l'encontre de la sécurité et des agents d'entretien.
Dans ce rapport, on y trouve des photos du Premier ministre en train de trinquer autour d'une table remplie de bouteilles. On y rapporte des gens en train de vomir ou de faire la fête jusqu'à 4 heures du matin au point d'avoir à sortir par la porte de derrière. Le leader de l'opposition a condamné l'orgueil et l'arrogance du gouvernement, mais à quel point ce rapport pose-t-il un risque pour Boris Johnson? Il n'a toujours pas été inquiété ni payé d'amende. Les conservateurs jouissent toujours d'une large majorité. Il n'y a pas à ce jour de remplaçant potentiel.
Et Boris Johnson qui a présenté ses excuses tout en refusant pour l'heure de démissionner. En Australie, Anthony Albanese prend ses fonctions jour après jour depuis son investiture lundi. Le nouveau Premier ministre travailliste a déclaré qu'il veillerait personnellement à ce que son gouvernement soit économiquement responsable, je cite, mais que pour autant il tiendrait toutes ses promesses de campagne électorale. Conscient des défis économiques qui l'attendent, notamment la hausse des taux d'intérêt et son impact sur la croissance australienne, Anthony Albanese a mis en cause l'ancien gouvernement et accuse Scott Morrison d'avoir laissé le pays dans une situation pire que ce qu'il avait admis.
I want to make sure that we have an economy that works for people, not the other way around. We made commitments at the election campaign. We will stand by all of them. We'll go through line by line our budget in order to be fiscally responsible. And I'm sure at the end of that process, we will get a better outcome for the nation than the sort of, quite frankly, rank rorting. That we saw of public funds under the former government.
Et c'est dans ce contexte que l'on vient d'apprendre que les factures d'électricité allaient augmenter à partir de juillet. À regarder de plus près, il faut s'attendre à une hausse d'au moins 100 dollars par an. En cause, l'augmentation du prix de l'énergie, plus 140%, imputée notamment à la guerre en Ukraine qui a éclaté fin février. Mais le nouvel gouvernement blâme également son prédécesseur. On écoute Chris Bowen, il est pressenti pour être le nouveau ministre de l'énergie.
There are international factors at play here. Of course, geopolitical circumstances are impacting on Australian markets in many ways. But the fact of the matter is, the lack of energy policy, the lack of investment in new energy, the lack of investment in renewable energy, and the lack of transmission over the last 9 years means that Australians are paying more for electricity than they should be.
Le nouveau gouvernement albanais, on en parlait justement, en opération séduction dans les îles du Pacifique. La ministre des Affaires étrangères Penny Wong rencontre aujourd'hui le premier ministre des Fidji, Frank Bainimarama. Objectif, exposer les engagements que compte prendre l'Australie dans la région. Des engagements alors que l'Indo-Pacifique est marqué ces derniers temps par des tensions à cause de la relation avec la Chine et notamment la signature d'un accord de sécurité entre Pékin et les îles Salomon. Et en parallèle, on apprend que le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, sera également en déplacement dans la région cette semaine, notamment aux Fidji et aux îles Salomon justement. Toujours en politique australienne et de son côté, Scott Morrison reprend une vie normale loin de ses bureaux de Canberra. L'ancien Premier ministre entend profiter de sa famille, on l'écoute.
Going back to the Shire and re-establishing our life back there, getting the girls back into their routine. I've just dropped them off at school this morning, and that's looking forward to being a dad again. It's been a while since I've been able to spend as much time as I would have liked with the family. I'm going to support the new leadership and the direction they're taking, and I think you've always got to be true to your values, and I've always sought to do that.
Scott Morrison qui a toutefois annoncé qu'il resterait au Parlement tout en conservant son siège de député de Cook dans le sud de Sydney. Il promet également son soutien à son successeur à la tête du Parti libéral, successeur qui devrait sans surprise être le député Peter Dutton. Ce 26 mai 2022 marque le 25e anniversaire de la publication du rapport Bringing Them Home, ce rapport historique de 1997 sur ce qu'on appelle les générations volées, c'est-à-dire la séparation de ces enfants aborigènes de leur famille dans le cadre des politiques gouvernementales entre 1910 et 1970. Eh bien aujourd'hui, jour d'excuses nationales, des membres de la communauté indigène d'Australie-Occidentale exhortent l'État à mettre en place un programme de réparation. L'Australie-Occidentale est avec le Queensland les deux seules juridictions qui n'ont pas encore mis en place une indemnisation, comme le recommande le rapport de 1997. Jim Morrison est le président de l'Association des générations volées de l'Australie-Occidentale. Il évoque l'urgence d'une telle réparation.
State governments and the national government should be ashamed that so little has happened since the handing down of the report in 1997 and so few of the 54 recommendations have been implemented. And we're now feeling the impact of removal still. And when you think of Western Australia, the population of Stolen Generation peoples and their descendants are more than half of the population. The equity issues are not improving.
Un point sur la météo de cet après-midi, on commence par l'ouest et à Perth il fait 23 degrés avec du soleil. On continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, des averses à Adélaïde, 19 degrés. Pareil à Melbourne et à Hobart, entre 16 et 17 degrés. Après une matinée de brouillard, il fait beau à Canberra, il faut compter 17 degrés, 21 à Sydney, des averses et 23 à Brisbane, nuageux mais quand même 28 degrés à Cairns. Et enfin, comme souvent, le meilleur pour Darwin, il fait beau, il fait chaud, 33 degrés. Le rappel des titres, les États-Unis en deuil après une fusillade dans une école primaire, 19 enfants et 2 enseignants tués par un jeune Américain de 18 ans, Joe Biden est attendu au Texas. Boris Johnson acculé par le rapport d'enquête sur le parti Gate mais refuse de démissionner. Et enfin, le prix de l'électricité en hausse en Australie à partir de juillet, plus 100$ par an minimum.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
C'est la fin de ce journal. Restez sur SBS French. Tout de suite, le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse. On va parler bien sûr de Roland Garros et de Raphaël Nadal qui remporte son 300e match en Grand Chelem. Il l'emporte sur le français Corentin Moutet en 3-7. Tous les détails dans un instant.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tournoi de Roland-Garros et ça passe pour Novak Djokovic, tête de série numéro 1 contre le Slovaque Alex Molcan en 3 manches. Nadal s'est imposé contre le Français Corentin Moutet, le Français qui avait reçu un wild card pour ce tournoi de Roland-Garros. Il s'est incliné donc en 3 manches. On écoute sa réaction sur RFI.
C'était un objectif de le jouer en plus. Enfin, il y avait toutes les conditions que je pouvais rêver quand j'ai commencé le tennis. Et que je rêvais même pas, parce que j'imaginais même pas que ça allait être possible un jour de jouer contre lui à Roland-Garros. Quand on commence et qu'on joue dans sa chambre sur le mur, on peut pas imaginer qu'un jour ça sera nous à la télé. Donc non, c'est si jamais on prend un peu de recul et que je laisse de côté la déception de la défaite, c'est incroyable de vivre ça. Franchement, c'est un moment qui sera unique, qui m'appartient et je le garderai jamais dans ma tête.
On revient sur l'adieu de Joe Wilfried Tsonga. C'était mardi, son dernier match à Roland-Garros après 18 ans de carrière professionnelle. Hugo Moissonnier, RFI.
Ambiance fantastique, irréelle sur le central de Roland-Garros. Le public en folie pour la DER de Joe.
L'un des tops français.
C'est vraiment un joueur qui nous a fait rêver.
Bah, on aurait aimé le voir encore plus haut, hein, évidemment. Il reste quand même l'un des meilleurs joueurs français.
Il nous faisait vibrer sur Roland, c'était génial.
Sur le court, sur sa terre de Roland, son gars ne part pas battu. Il remporte même la première manche. Il va au bout de lui-même dans le quatrième avant d'atteindre la limite, celle de son corps et de son parcours.
Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Le jour de dire au revoir à mon compagnon de toujours.
La pluie dans le ciel, les larmes sur le central et un gentil règlement de compte au passage.
J'étais un jour suisse, un jour fils de père congolais, un jour sauveur, un jour usurpateur. La vie quoi. Merci monsieur tennis, je t'aime.
Oh, Wilfried Tsonga.
Et vous appelez comment ?
Patrick.
Il y a eu une petite larme.
Quasiment, oui. Je faisais aussi partie de ceux qui pensaient que contre Ruud, ça serait très rude. Il nous a montré du Joe, des coups extraordinaires. Puis à côté, des choses impossibles à tenter qui échouent. Malheureusement, ça se termine par une blessure. Bravo Joe, merci. Bonne chance pour la suite.
Et maintenant, on revient sur le parcours de Joe Wilfried Tsonga avec Eric Mamrut pour RFI.
Joe Wilfried Tsonga, 18 ans de carrière depuis 2004, 18 ans de puissance, de rage de vaincre avec à la clé 18 tournois remportés dont 2 Masters 1000, une finale de Grand Chelem, des victoires contre les tout meilleurs joueurs du monde, les Federer, Nadal et Djokovic, une Coupe Davis soulevée, une place de 5e joueur mondial et j'en passe. Joe Wilfried Tsonga, c'est tout simplement le plus gros palmarès de l'histoire du tennis français après Yannick Noah. Beaucoup de grands moments, Tsonga, Gasquet, Simon et mon fils, un pour tous, tous pour un, 4 amis quasiment du même âge, 4 membres du top 10 à leur meilleur, alors forcément, voir un premier camarade quitter le navire est un déchirement, exemple avec Gaël, mon fils.
Moi, en tant que Gaël, j'ai pas envie qu'il arrête, pas maintenant. Et après, je comprends tout ce qui permet cette décision, malheureuse, entre guillemets. Et faut fêter tous les moments qu'on a avec lui. On est amis pour la vie, c'est sûr, mais on est encore joueurs ensemble. Alors, c'est dur, mais je suis hyper heureux pour lui parce que je le vois épanoui, je vois qu'il est très serein avec sa décision. Et je ne me fais pas du tout de soucis pour son après-carrière.
Et oui, s'il n'avait pas été trahi par son corps, Tsonga aurait bien aimé continuer.
Le Giro d'Italia, après la 17e étape, c'est Richard Carapaz qui est toujours en tête avec le maillot rose, suivi de 3 secondes par l'Australien Jay Hindley. Le Giro, c'est tous les soirs à la télévision SBS. On passe au foot avec l'AS Rome qui remporte la finale de la Ligue Europa Conférence contre Feyenoord Rotterdam, 1-0. En Afrique, le Kenya et le Zimbabwe n'iront pas à la CAN de 2023. Précision de Frédéric Suto pour RFI.
Le 24 février dernier, la Fédération internationale de foot décidait de suspendre avec effet immédiat les 2 fédérations. La raison avancée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, interférence gouvernementale dans les activités des dites fédérations. Les 2 pays, Kenya et Zimbabwe, ont néanmoins été maintenus en avril dans le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023, la répartition des 48 équipes en 12 groupes de 4, mais la Confédération africaine de foot avait alors précisé que si les deux fédérations ne se mettaient pas en règle 15 jours avant la première journée de ces éliminatoires, elles seraient alors exclues. Nous en sommes là, les éliminatoires débutent dans une semaine et au regard des critères de la FIFA, ni la fédération zimbabwéenne ni la fédération kényane n'ont été remises sur pied. Conséquence, il n'y aura que 3 équipes et non 4 dans le groupe C où se trouvait le Kenya en compagnie du Cameroun, de la Namibie et du Burundi et 3 équipes dans le groupe du Zimbabwe, le groupe K, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Libéria. 3 équipes au lieu de 4, mais la règle ne change pas dans ces deux groupes. Les deux premiers seront qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la CAN 2023.
Le foot toujours avec Liverpool qui jouera la finale de la Ligue des Champions ce samedi contre le Real de Madrid. Ce sera au Stade de France. Écoutez ce reportage sur la ville des Beatles et sur ce club à notoriété mondiale. Emeline Vin, Radio France Internationale.
Du stade de Goodison au nord de Liverpool, il faut marcher moins de 10 minutes pour atteindre Anfield. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions, Franck est venu s'acheter un nouveau maillot. Chez lui, on est Reds de génération en génération.
Ça commence dès l'enfance, on vous emmène dans l'un ou l'autre club et ça vous suit toute la vie. Cela dit, dans certaines familles, il y a des supporters des deux équipes. Mais on l'a toujours dit, si Liverpool ou Everton arrivent en finale de la Coupe d'Angleterre, toute la ville soutiendra cette équipe, Reds ou Blues. Si Everton arrivait en finale, je crois que tout le monde les soutiendrait.
D'ailleurs, la presse anglaise surnomme les matchs entre Everton et Liverpool le derby amical. Situé pile à la frontière entre territoires rouge et bleu, le pub The Abbey est aux premières loges pour ces rencontres. Sue, la tenancière, préfère ne pas prendre parti.
C'est plus sûr de ce côté-ci du comptoir. On a des clients Reds et des clients Blues, mais le derby ne s'est pas bien passé. Je ne dirais pas que ce sont les fans, mais il y a eu un effet de masse qui a entraîné des troubles. Depuis, on est un peu méfiant. La plupart s'entendent bien, mais il y en a toujours qui cherchent les ennuis.
Le derby du Merseyside est l'un des seuls à ne pas séparer les fans des deux équipes dans les stades. Mais samedi prochain, Chris, casquette des Blues vissée sur la tête, soutiendra le Real. Real entraîné par un ancien d'Everton.
Mes copains et moi allons faire une petite fête avec les drapeaux du Real. Carlo va faire le job. Klopp n'a jamais battu Ancelotti. Les Reds s'y croient. Avec Everton, on garde les pieds sur terre, on ne se prend pas pour je ne sais qui.
Le reste de la ville pourtant, ce sont surtout des drapeaux rouges qui pendent aux fenêtres et dans les magasins, pas facile de trouver des souvenirs aux couleurs d'Everton. Mike, supporter des Blues, tient un petit stand dans les rues piétonnes.
Liverpool se vend mieux parce que c'est un club de touristes. Everton, c'est un club de locaux. Je ne dis pas aux clients que je suis fan d'Everton. Je leur fais croire que je soutiens Liverpool. Je leur prends leur argent et puis je rigole quand ils ont le dos tourné.
Everton pourrait aussi devenir un nouvel atout touristique pour l'ancienne ville industrielle. Le club du peuple doit inaugurer son nouveau stade, plus grand qu'Anfield, sur les docks, proche du centre-ville, à la saison 2024-2025.
Et puis c'est au Rwanda que le club parisien a ouvert une antenne de sa Paris Saint-Germain Academy. Elle a été inaugurée en novembre de 2021. Une académie entièrement gratuite et quasi paritaire. Parmi les 184 élèves sélectionnés, 72 petites filles rêvent d'être footballeuses professionnelles. Reportage Laure Broulard, RFI.
Michel Rouzibiza, 11 ans, arbore fièrement son maillot du PSG flambant neuf. Comme chaque jeudi, cette jeune Burundaise vient s'entraîner à l'académie, au stade de Houillé, après l'école.
Avant, je ne savais pas contrôler le ballon, faire des jonglés et pouvoir courir plus vite avec le ballon. J'ai pu apprendre ça et connaître le ballon mieux.
Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ?
Je veux devenir footballeur professionnel. Vraiment, je le souhaite.
Sur la pelouse synthétique, garçons et filles s'entraînent ensemble par groupe d'âge. Sous l'œil avisé de Grèce, Nina Wumuntu, la directrice technique de l'académie. Elle est également la première femme à être devenue entraîneuse professionnelle au Rwanda et la première femme arbitre du pays.
Je pense que cette académie va produire de bonnes joueuses pour le football rwandais parce que je crois que c'est la première académie ici qui commence à entraîner des filles des 6, 7 ou 8 ans.
La directrice technique souhaite porter le nombre de filles dans l'académie à 100 contre 72 actuellement.
Nous avons du mal à trouver des filles. Certains parents considèrent encore que les filles ne devraient pas mettre un short et jouer au football.
L'équipe de l'Académie est également paritaire. Le PSG a sélectionné puis formé 4 entraîneurs, 2 hommes et 2 femmes. Séraphine Oumouniana entraîne les plus petits. Elle suit au jour le jour un programme défini par des entraîneurs du PSG.
On remarque déjà de gros progrès. Quand on a commencé, les enfants ne savaient pas comment se déplacer avec le ballon. Mais maintenant, ils ont appris et puis ils sont créatifs, ils sont plus rapides. Ils sont sur la bonne voie. Et une fois qu'ils auront atteint le niveau pour être des joueurs professionnels à l'international, là, on aura atteint notre but.
Mais l'objectif reste avant tout de dénicher de nouveaux talents pour la Fédération rwandaise de football, alors que les joueurs de l'équipe nationale, les Amavubi, peinent à se distinguer dans les compétitions africaines.
Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi.
C'était un extrait de You Are The Reason, chanson franco-anglaise interprétée par Barbara Pravi et Callum Scott. Tout de suite sur SBS French, la chronique économie, comme chaque jeudi. Et aujourd'hui, Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich reviennent sur la nomination du nouvel gouvernement australien.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Il y a un nouveau gouvernement, un nouveau trésorier. Le nouveau trésorier s'appelle Jim Chalmers. Il avait quoi à dire sur l'économie australienne?
Oui, donc voilà, Jim Chalmers qui vient juste d'être élu et puis maintenant le trésorier du pays. Donc voilà, qui le premier... trésorier travailliste en 9 ans, et il a dit en fait que bon, l'Australie avait une dette de 1000 milliards de dollars et que ça allait prendre des générations à payer cette dette. Donc il a ajouté que vraiment c'était le gouvernement de Scott Morrison qui avait tellement mal géré la situation financière qu'on n'avait pas beaucoup à montrer pour cette dette, il n'y avait pas beaucoup de résultats. Ce qu'il fait là, c'est que M. Chalmers se positionne politiquement pour pouvoir continuer à accuser et rendre coupable l'ancien gouvernement, même plus tard, dans quelques mois ou dans 6 mois, dans un an, s'il y a encore des problèmes économiques. Il peut dire que ce n'est pas notre faute, c'est la faute de l'ancien gouvernement. Ils disent que c'est eux qui ont hérité cette énorme dette. Et que ça va prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de travail à réduire ces dettes. Donc là, M. Chalmers vient d'examiner ce qu'on appelle le Red Book. Ça, c'est les détails de l'économie qui sont tenus par l'administration. Il dit que vraiment l'inflation, le taux d'intérêt, les salaires et cette dette sont les défis les plus importants pour le gouvernement et pour la communauté australienne maintenant. Donc, il a dit qu'il faut absolument améliorer la pression sur les familles, mais sans ajouter au taux d'inflation qui est monté récemment. Et donc, M. Chalmers va aussi rencontrer le gouverneur de la Banque centrale, Philip Lowe, cette semaine, ainsi que le secrétaire de la Trésorerie, pour vraiment bien s'informer et pour pouvoir vraiment commencer à gérer l'économie en Australie. Et c'est intéressant parce qu'il a aussi demandé des conseils à des anciens leaders travaillistes de Labour, l'ancien Premier ministre Paul Keating, qu'il connaît depuis 10 ans, qui est un ami à lui, il dit, et aussi Wayne Swan, l'ancien trésorier. Il a parlé avec lui pour lui demander des conseils, comment faire ce job, parce que c'est quand même un énorme job, être celui qui guide l'économie australienne, en particulier en ce moment, avec plein de défis, comme on vient d'expliquer.
Et puis, Nicolas, est-ce qu'on peut faire le point sur l'avenir de l'industrie d'exportation des moutons vivants maintenant que les travaillistes sont au pouvoir?
Bah oui, on peut dire tout de suite qu'il y a beaucoup qui sont très inquiets, ça c'est sûr. C'est un secteur qui vaut 136 milliards de dollars. Et aussi, Labour avait donc promis d'éliminer l'exportation des moutons vivants. En particulier à cause du bien-être des animaux. Il y avait eu des scandales, donc des films sur Four Corners et ailleurs qui montraient les moutons dans des conditions affreuses. Alors les fermiers, là, maintenant, bien sûr, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, si ça s'arrête complètement, comment eux, ils vont vivre, parce que pour certains fermiers, c'est leur seul moyen de gagner leur vie. Ça fait 100% de leur business. Donc, ils espèrent pouvoir convaincre, encourager ce nouveau gouvernement à changer d'avis. Parce qu'ils disent que, depuis 2019, quand il y avait eu ces scandales, les conditions pour les moutons sur les bateaux d'exportation se sont beaucoup, beaucoup améliorées. Et c'est vrai aussi que le gouvernement a promis de discuter avec le secteur avant d'agir, de prendre leurs conseils. Donc, les fermiers veulent savoir si l'exportation va être interdite tout de suite ou un peu plus tard, et quand, en fait. Ils veulent de la certitude. Ils veulent savoir aussi si ça va être juste les moutons, parce qu'il y a eu des problèmes, des scandales autour de l'exportation des bétails. Ça, il reste à voir, mais c'est un endroit politiquement très sensible pour Labour aussi. Ils avaient déjà essayé ça une fois, ça s'est pas très très bien passé, j'imagine que ils vont y aller plutôt doucement, le nouveau gouvernement de Anthony Albanese.
Merci Nicolas pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Je vous en parlais en sommaire, on vous propose maintenant de découvrir ce grand reportage de RFI sur un sujet de société des plus importants, les fausses couches, les interruptions spontanées de grossesse. 15 à 20% des grossesses s'arrêtent dans les premières semaines. Ça n'a rien de faux, ce n'est pas une fausse couche, c'est un vrai deuil, une vraie détresse. Fausse couche, la mal aimée, c'est tout de suite après une très courte page de publicité.
Vous perdez un bébé, c'est ça aussi la vision de la société aujourd'hui. Vous perdez un bébé avant que ça se voit, avant que ça se sache, avant que la sécu vous reconnaisse enceinte, c'est-à-dire à partir de l'entrée dans votre deuxième trimestre de grossesse. Concrètement, officiellement, vous n'êtes pas enceinte. Personne ne sait, il y a que vous qui le sachez. Clairement, ne pas considérer que c'est une grossesse parce que c'était très tôt dans la grossesse, c'est quand même vachement violent, quoi.
Et si on cessait d'employer le terme « fausse couche » ? En France, une fausse couche précoce désigne un arrêt spontané d'une grossesse dans le premier trimestre. Mais il n'y a rien de faux dans cet événement qui touche 15 à 20% des grossesses. Et pourtant, la fausse couche est encore banalisée, totalement passée sous silence. Fausse couche, la mal nommée, c'est un reportage d'Amélie Tulé, tourné avec Virginie Lorda et Stéphane Foulon de Radio France, et réalisé par Pauline Leduc pour Radio France Internationale.
Je vais peut-être vous installer en mettant les jambes, voilà. Sinon après vous tirez sur les abdos. Voilà, merci. Alors attendez.
Le docteur Joël Ben Simon reçoit aujourd'hui Sabrina Dos Santos et son compagnon, Mehdi Kellouf. Ils attendent leur premier enfant, une petite fille. Avant, ils ont vécu ensemble deux débuts de grossesse, arrêtés spontanément.
Je suis en train d'écouter le cœur du bébé et on remarque que le rythme cardiaque est très accéléré, ce qui est normal et qui est très différent de celui de la maman, puisque celui de la maman est beaucoup plus lent. Et donc, quand c'est bien tapé comme ça, on se dit que c'est bien, que le bébé va bien. Ça me soulage. C'est bon, pas de... On se détend aujourd'hui, tout va bien encore, quoi. Mais j'ai ce, vous voyez, tout va bien encore. Et ça, je pense que si ça avait marché les deux premières grossesses du premier coup, j'aurais pas dit ça.
J'aurais été un peu plus euphorique, un peu plus dans l'émotion. Là, je suis juste... Bon, oui, je veux bien qu'on contrôle. Ça me fait toujours du bien, en fait. Comme ça, je sais qu'elle est là.
Le mot fausse couche, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je ne comprends pas.
Du coup, comment vous en avez parlé ?
J'en ai pas parlé, en fait. Personne l'a su. Après, certains proches qui l'ont su m'ont dit... Pourquoi tu nous en as pas parlé ? Je sais pas, parce que, alors d'un, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie d'annoncer de mauvaises nouvelles. Ouais, je sais pas pourquoi le fait d'en parler dès le premier mois, c'est grave. Est-ce que c'est parce que beaucoup de gens se disent « Ah ben non, parce que c'est chiant, après tout le monde va dire « Ah, ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre. » Je sais pas, ouais, mais peut-être que la femme, en fait, elle en a besoin, elle a peut-être besoin de soutien. Et je pense qu'en gros, la société fait qu'on minimise en fait ce risque-là. Ah, c'est bon, c'est rien, on recommencera. Ouais, sauf que y a la psychologie, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, il n'y a qu'en passant par là qu'on peut le comprendre.
Celle que je retiens le plus, où on a détecté avec le docteur Ben Simon des jumeaux, donc deux poches, mais aucun. Comment on dit ? J'ai perdu les mots.
Aucune activité cardiaque.
Aucune activité cardiaque. Cette fausse couche-là, avec donc deux poches, j'en ai parlé à personne. Ce jour-là, j'étais très très mal. J'avais pas de mots, parce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de positif. Mais en gros, on a été super déçus. Bon, on a pris la voiture, on est rentré, enfin voilà. Et puis le lendemain, et le surlendemain, on a commencé à en reparler un petit peu. C'est là où je lui ai dit, et je lui ai toujours dit, on va y arriver. On ne peut pas rester là-dessus, et donc on va y arriver. Ces mots-là sont très simples, mais aujourd'hui c'est le cas.
Je suis le docteur Joël Ben Simon, je suis gynécologue. Il y a une évaluation qui dit que 80% des grossesses se poursuivent, donc il y aurait 20% de grossesses qui s'arrêteraient. C'est énorme, on en voit beaucoup, c'est vraiment le quotidien des gynécologues. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup, pour plusieurs raisons à mon avis. De la part du corps médical, on sait que quand une grossesse s'arrête, on ne fait rien pour la sauvegarder. Parce qu'on sait que c'est une grossesse qui est de toutes les façons destinée à s'arrêter. Donc nous, en tant que médecins, on est déjà renvoyés à un premier échec. La deuxième chose, c'est que médicalement, les femmes se remettent facilement. Certes, elles saignent abondamment. S'il y a une petite anémie, on compense avec du fer. Mais physiquement, elles se remettent très bien. Par contre, psychologiquement, là, c'est une autre affaire. Elles avaient peut-être projeté la grossesse, idéalisé le bébé, et d'un coup, boum, ça s'arrête. Et c'est très compliqué à gérer.
Médicalement, qu'est-ce qu'on sait des causes qui provoquent un arrêt de la grossesse dans le premier trimestre ?
Alors, dans le premier trimestre, le plus souvent, ce sont des anomalies chromosomiques. Vous savez que les chromosomes sont formés de deux brins. Il y a un brin qui vient du papa et un brin qui vient de la maman. Les deux brins s'appareillent comme une fermeture éclair. Et bien, il y a une fermeture éclair qui est décalée. Et donc, la grossesse n'était pas destinée à une viabilité et elle est éliminée. Ça, c'est la plupart des fausses couches précoces. On dit que c'est souvent des anomalies chromosomiques et qui ne se reproduisent pas. En gros, quand une femme a eu une fausse couche, elle a 90% de chances que la grossesse suivante soit normale. Autrefois, les médecins disaient « Bon, ben voilà, vous avez fait une fausse couche, allez, vous recommencez dès que vous êtes prête et puis on n'en parle plus. » Et moi, je pense qu'il faut laisser le temps aux femmes de se remettre d'une fausse couche. Je pense qu'il ne faut pas banaliser la fausse couche.
En tout cas, fausse couche, pour moi, ça ne veut rien dire. Fausse couche, ça ne veut rien dire.
Oui, c'est vrai. Hein.
Le terme fausse couche interroge. En France, dès le XVIIIe siècle, un dictionnaire médical recommande de ne plus l'utiliser. Pourtant, il fait toujours partie de notre vocabulaire. Aux urgences gynécologiques des diaconesses à Paris, l'équipe réfléchit au meilleur accompagnement possible. Jacques Famavan est cadre sage-femme et il explique que parfois, ce sont les contraintes matérielles, les locaux qui posent problème.
Aux diaconesses, les patientes arrivent aux urgences directement et en effet, la salle d'attente, elle est commune.
Ça veut dire ?
avec les femmes enceintes.
Donc une femme qui est en train de vivre une fausse couche, elle attend d'être
à côté d'une femme qui est en train d'avoir ses premières contractions. C'est clairement difficile.
Qui le dit? Comment on le dit?
En général, c'est l'échographiste en fait qui va faire l'annonce, l'échographiste qui va annoncer au couple que la grossesse est arrêtée.
Est-ce qu'on a le temps de faire les choses doucement? Comment ça se passe?
L'idée est d'essayer de prendre son temps. Malheureusement, on est aux urgences. Donc des fois, les urgences font que on court. C'est le principe même des urgences. On ne sait pas ce qui nous attend derrière notre porte. Mais la meilleure des médecines, c'est aussi de savoir prendre son temps pour pouvoir discuter. Parce qu'on reste des humains et qu'il faut que l'humain communique avec l'autre.
Vous, vous pratiquez depuis 10 ans. Comment vous voyez les choses évoluer?
J'ai vu des pratiques où on était assez brutal. On pouvait dire de façon très crue, la grossesse est finie, voici les médicaments, et puis on fermait la porte et on passait à la patiente suivante, au couple suivant. Et puis de plus en plus, il y a des équipes qui commencent à travailler sur l'éthique et de se dire que c'est peut-être pas la meilleure manière en fait d'exercer et que prendre son temps, il y a aussi en fait du soin. Prendre son temps, ça fait aussi partie du soin.
Qu'est-ce que vous pensez du terme fausse couche?
C'est comme si ça n'existait pas. C'est le terme de bon, c'est pas une vraie grossesse en fin de compte. Ça n'a pas existé. C'est vraiment le terme de « oh, on va oublier ». Je crois que dans le terme de fausse couche, on entend ça aussi. Le terme de « bon, bah, y a rien, c'est pas grave, on passe à l'eau suivant ». Et je pense que c'est pas vraiment le bon terme. 10h65, on va essayer d'avoir la gynéco de garde. Oui, Anaïs ?
Ça commence bien, hein, ça commence sur ça, justement.
C'est
un peu compliqué, une patiente qui est laissée un peu de côté et qui n'est pas très contente, ce que je comprends. Hop. Je mets juste un petit message sur le groupe et j'arrive.
Yep.
Hop.
Le docteur Anaïs Bekmézian est une des gynécologues obstétriciennes du service.
Venez, installez-vous.
Pour que la patiente aille mieux sur le plan médical, il faut aussi la prendre en charge sur le plan psychologique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'accueil, de l'explication. Et puis, ça peut être aussi de l'ordre de la consolation, c'est-à-dire pas très scientifique et médical, mais de dire, oui, on entend votre tristesse, c'est vrai que c'est très triste, malheureusement, c'est fréquent, donc ne pas aussi inquiéter trop les patientes, parce que oui, c'est triste, mais c'est pas grave, dans le sens où c'est pas forcément une maladie maternelle, c'est pas forcément une anomalie fœtale, ça peut arriver, les fausses couches du premier trimestre, ou plutôt les arrêts de grossesse au premier trimestre, c'est fréquent. Donc il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas non plus... il faut dire que c'est des choses qui arrivent, que ce n'est pas quelque chose que la mère a fait aussi, parce que ça, il y a beaucoup de culpabilité des patientes. Les modalités de présentation des fausses couches sont différentes. Il y a les fausses couches qui arrivent avec des contractions, des saignements, qui sont tordues de douleur, et puis il y a des femmes qui arrivent pour leur écho du premier trimestre, et puis on découvre que la grossesse est arrêtée, et c'est la même chose. La réaction des femmes face à une grossesse qui s'arrête au premier trimestre dépend aussi beaucoup, beaucoup de son histoire et de l'investissement qu'elle a eu de sa grossesse et donc de son histoire personnelle, obstétricale ou même dans l'enfance. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui interviennent et je me suis rendu compte que c'est très important en fait d'entendre cette histoire de vie et de refaire le parcours avec elle pour pouvoir mieux les prendre en charge sur le plan médical.
Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer, vous pensez,
bien sûr,
structurellement?
Oui. De toute façon, bien sûr, il y a quelque chose à améliorer structurellement. Après, ce qu'il faut aussi que les gens aient dans la tête, c'est que les gens qui sont à l'hôpital, les soignants, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue et qui sont dans la voiture quand ils sont coincés dans les embouteillages et qui râlent, en fait. C'est les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des cons partout, en fait. Et il y a des gens qui ne savent pas parler aux patients partout. Et c'est pas en gynécologie, je trouve que le gynéco-bashing, par exemple, qui est sur le devant de la scène, n'est pas justifié parce que cette absence d'écoute et de formation à l'écoute, elle est dans toutes les spécialités. C'est beaucoup plus général et beaucoup plus global. Et oui, il y a un gros effort à faire sur la formation, mais moi, je n'ai pas eu de formation. Il y a aussi un gros effort à faire sur soi et puis sur penser qu'on n'a pas la vérité absolue et que la pratique de la médecine, elle évolue. Quoi. Les gens, ils ne peuvent pas dire « ça fait 35 ans que je fais la même chose, ça fait 35 ans que je vais continuer à faire la même chose ». Non, il faut changer. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, on nous disait « la prise en charge, c'est une prise en charge globale du patient ». On ne nous disait pas vous soignez cet organe ». C'était déjà dans la formation, il était dit « il faut tout prendre en compte ». Après, est-ce qu'on avait le temps de le faire? Est-ce qu'on nous donnait les moyens de le faire? Le nombre de soignants suffisant pour le faire? Non. Il y a une injonction à ça, sans nous donner aucun moyen, que ce soit financier ou humain, ou dans la formation pour le faire.
Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi.
Vous avez sûrement reconnu sa voix emblématique, ses grands corps malades, bien sûr, avec sa chanson « Voyage en train ». On revient maintenant à ce reportage de RFI, « Fausse couche, la mal aimée », deuxième et dernière partie.
Le docteur Anaïs Bekmézian se dirige vers le bloc opératoire pour une aspiration. Un geste médical parfois nécessaire quand le corps n'a pas évacué tous les tissus de la grossesse qui vient de s'arrêter.
Donc moi, je vais me laver les mains. Quand je vais rentrer, vous serez encore éveillée.
Okay.
Le temps qu'on m'habille, l'anesthésie est très courte.
Oui.
Dès qu'on vous endort, ensuite on installe les jambes en position gynécologique. Lucille, l'infirmière, a amené l'appareil d'échographie pour, comme je vous ai expliqué, que je vérifie avec, avec l'échographie qu'il ne reste rien du tout dans l'utérus. Ça va durer une dizaine de minutes. Vous allez avoir un petit peu mal au ventre, comme des règles, pas plus douloureux que ça.
D'accord. Et il y a le sang qui va sortir.
Un petit peu. Ça va saigner un petit peu pendant quelques jours.
Mal.
Ok. Donc après le bloc opératoire, vous allez aller en salle de réveil. Et ensuite, on vous remet là où vous étiez au début, au quatrième étage.
Ok.
Vous vous reposez un peu, vous mangez un petit truc et je viens vous voir en début d'après-midi pour voir si tout va bien avant votre sortie.
Ok.
Ça vous va?
Ça me va.
Ok. Bon, allez, on y va. Je me lave les mains.
Alors, je vais mettre un petit masque sur le visage et de l'oxygène, d'accord?
Il y a un sas, on est changé, on essaie de changer. Là, on arrive... Quand on a une césarienne, la patiente qui sort du bloc de césarienne va en salle de réveil. Quand on va faire une aspiration pour une grossesse qui s'est arrêtée, la patiente va en salle de réveil. Donc il faut imaginer que la patiente qui est enceinte et qui a accouché a un enfant à côté d'elle et que la patiente à qui on a fait une aspiration n'a pas d'enfant à côté d'elle. Donc voilà, on n'a pas deux salles de réveil complètement séparées. On essaye de les mettre dans une autre petite salle de l'autre côté en fait. Mais si le bébé pleure, le bébé pleure. Voilà. Donc ça par exemple, est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, on devrait. Est-ce qu'on peut techniquement avoir, avec les locaux et tout, et la possibilité de surveillance de nos patients, est-ce qu'on peut faire autrement? Non. On n'a qu'une infirmière de salle de réveil pour surveiller toutes les patientes. Les locaux, en fait, où l'institution peut être violente, mais est-ce que les soignants eux-mêmes sont violents ou peuvent changer leur pratique? Ben, on a trop d'impératifs qui sont difficiles à... Voilà. Donc c'est ce qui rend aussi la prise en charge difficile.
Pour améliorer cette prise en charge, l'équipe des diaconesses compte deux psychologues à mi-temps et organise des groupes de parole pour celles et ceux qui en éprouveraient le besoin après un arrêt de grossesse dans le premier trimestre. Des espaces d'écoute et d'échange, c'est aussi ce que propose l'association AGAPA. Sybille et Natacha ont toutes deux été accompagnées. Aujourd'hui, elles veulent aider à faire évoluer la façon dont on pense et parle de cette universelle mais mal nommée fausse couche.
Alors, je m'appelle Sybille, j'ai 40 ans et là, je suis enceinte actuellement de mon deuxième enfant. Et il se trouve que j'ai fait 3 fausses couches avant, entre la naissance de ma fille et donc la grossesse que j'attends, enfin que je suis en ce moment. Et mes 2 premières fausses couches, en fait, je ne me suis pas trop posé la question parce qu'elles étaient arrivées assez tôt dans la grossesse. Et donc, en fait, j'ai compensé en travaillant beaucoup. On pense à autre chose et puis voilà, c'est pas grave, on va de l'avant. Sauf que ma dernière fausse couche a été beaucoup plus traumatisante. J'ai senti que si je n'étais pas accompagnée, je perdrais pied. Donc quand on a l'impression de tomber dans la folie, en fait. Et je pense que j'étais vraiment à cette frontière. J'ai été tellement surprise par le fait qu'on me dise « Voilà votre ordonnance pour les antidouleurs. » Et basta. Donc on était très sur du physique. Et je me disais « Mais moi, dans ma tête, je vais pas bien, en fait. » Et donc j'ai regardé... des associations, et donc c'est AGAPA qui est sorti en premier sur Google. Je pense que le lundi, je perdais vraiment le bébé, et le lundi soir, j'avais Laure au téléphone, mon accompagnatrice, avec laquelle j'ai déjà pu parler pendant je sais pas combien de temps, mais qui était juste là pour écouter.
Quels sont les mots qu'il ne faudrait plus jamais entendre?
Pourtant, Stacha, on aurait une bonne liste.
Il y en a beaucoup, hein. T'en feras un autre. Ou moi, pareil, j'ai des fausses couches entre mes 2 garçons. Bah, t'en as déjà, hein, c'est déjà bien, accroche-toi à ça.
Oui, ça, c'est horrible, ça.
En fait, c'est une façon de nier et de dire, c'est bon, t'inquiète, t'en as déjà un.
Et c'est pas grave. Et le côté... ah oui, vous avez votre sac qui est remanié. Moi, je dis, mais mon sac à main non, et en fait, la personne qui me faisait l'échographie, on dit, mais non, vous voyez le sac, là, donc oui, vous faites une fausse couche. Ah oui, d'accord, je fais une fausse couche, ah oui, donc c'est bien ça. Donc le côté ne plus parler en termes techniques, que je ne comprenais pas, en fait, juste, hein, tout simplement. Le côté, c'est pas grave. En fait, pour moi, c'est grave. Donc, me dire que c'est pas grave, c'est nier le fait que pour moi, c'est important. Et oui, le côté t'en fais pas, t'en feras un autre. C'est magique que ce soit du corps médical, des proches. Enfin, ça, faut bannir ça. Hein.
Si vous perdez un bébé, c'est ça aussi la vision de la société aujourd'hui. Vous perdez un bébé avant que ça se voit, avant que ça se sache, avant que la Sécu vous reconnaisse enceinte, c'est-à-dire à partir de l'entrée dans votre deuxième trimestre de grossesse. Concrètement, officiellement, vous n'êtes pas enceinte. Personne ne sait, il y a que vous qui le sachiez. Clairement, ne pas considérer que c'était une grossesse parce que c'était très tôt dans la grossesse, bah, c'est quand même vachement violent, quoi. J'ai fait aussi 3 fausses couches. La première, j'ai fait une fausse couche très spontanée. J'ai eu ascenseur émotionnel. Oh, je suis enceinte, génial. Et puis 2 semaines après, bon bah non, perte de sang, voilà. La deuxième, j'ai eu besoin de faire un curetage. J'étais enceinte de presque 3 mois. Et la troisième, en fait, je me suis rendu compte très vite que ça n'allait pas évoluer parce que du coup, on faisait des dosages de taux BHCG. Et très vite, ils ont arrêté d'évoluer comme il fallait. Et on m'a donné des cachetons. L'interne m'a très gentiment dit, tiens, ça c'est à rajouter sur la phrase. Dans les phrases, ce qu'il ne faut pas dire, c'est ça va faire comme des grosses règles. C'est non, définitivement non. Et définitivement non, non. Même si c'est une grossesse très jeune, ce n'est pas comme des grosses règles. Et j'ai pris les médicaments. Je pensais que vraiment ça allait arriver rapidement. En même temps, je me disais, il m'a arrêté un jour, c'est bien que ça va se faire aujourd'hui, quoi. Non, enfin, j'ai commencé à perdre un petit peu de sang le jour J, mais j'ai réellement perdu l'œuf le lendemain en direct live au boulot, aller me changer toutes les demi-heures au travail et à voir ce que je perdais. Enfin, c'était pas des grosses règles. Alors, c'était très très tôt, c'était voilà, on voyait pas. Moi, c'est pas un bébé que j'ai perdu, c'est un œuf. Donc, mais par contre, effectivement, j'ai vu là ce que j'ai perdu, les membranes, petite, je sais même pas comment décrire ça, mais espèce de truc complètement gélatineux. Donc quand on ne vous prévient pas, que vous êtes au travail, qu'on ne vous a pas arrêté et que vous vivez ça comme ça, non, je suis désolée, mais c'est pas normal. Et là, pour le coup, oui, j'ai pu être en colère ce jour-là.
La réflexion que je me suis faite derrière toute cette ouverture de parole, c'est de me dire, comment est-ce que je fais pour que ma fille, quand elle voudra avoir des enfants, que pour elle, ça soit un autre sujet, en fait. Je perds un bébé parce que c'est comme ça, parce que la vie fait que c'est ça. Mais en fait, j'ai une société qui le comprend, qui accompagne, que ce soit au niveau du corps médical, que ce soit avec les familles, que ce soit avec les amis, que ça soit complètement ouvert. Moi, je refuse que ma fille vive les mêmes choses que j'ai vécues. C'est pas possible.
Fausse couche la mal nommée, c'était un reportage d'Amélie Tullet, tourné avec Virginie Lorda et Stéphane Foulon de Radio France, et réalisé par Pauline Leduc pour Radio France Internationale. 13h58 sur SBS French, l'heure du rappel des titres. Les États-Unis en deuil après une fusillade dans une école primaire. 19 enfants et 2 enseignants ont été tués par un jeune Américain de 18 ans. Joe Biden se dit fatigué, souhaite légiférer contre les armes à feu et est attendu au Texas dans les prochains jours. Les prix de l'électricité en hausse en Australie à partir de juillet, plus $100 par an minimum, en cause les politiques gouvernementales, mais aussi le contexte géopolitique, notamment avec la guerre en Ukraine. Et enfin, en sport, Rafael Nadal remporte son 300e match en Grand Chelem. L'Espagnol a sorti le Français Corentin Moutet en 3-7, 6-3, 6-1, 6-4. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en intégralité ainsi que toutes nos chroniques sur notre site internet sbs.com.au/french, sur Facebook, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. Je suis Marianne Murage et été très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Le prochain programme en français, c'est samedi, même heure, même fréquence. Je vous souhaite une excellente journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.